Bien. Eh ben aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de modélisme. On va parler un peu de théorie. Aujourd'hui, je vais vous aider, hein, si jamais vous avez envie de vous lancer dans ce domaine. Je vais vous donner quelques pistes à analyser et à réfléchir pour vous lancer le mieux possible dans le modélisme ferroviaire. C'est OK? Allez, moi, c'est Manu et je vous souhaite la bienvenue dans Audio de bord.
Audio de bord.
Audio de bord.
Écoutez, découvrez, voyagez.
Un podcast immersif.
Produit par VPK Prod.
Produit par VPK Prod.
Pour choisir le type d'échelle qu'on souhaite, je crois que d'abord, il vaut mieux faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dans la vie de tous les jours, dans le réel. On sait que par défaut, dans la grande majeure partie des cas, une voie ferrée est constituée de deux fils de rail. Nous, on va mesurer ce qu'il y a entre les deux. On va parler d'écartement normal pour une voie dont la distance entre les deux fils de rail s'élève à 1,435 mètres, donc 1435 cm. C'est ce qu'on appelle le gabarit à voie normale. On peut trouver des endroits où ce gabarit est plus large, comme par exemple en Irlande, où l'écartement le plus élevé qu'on a pu relever sur le globe s'élève à 1,60 cm, donc on parle de gabarit large. Ensuite, on peut trouver ce qu'on appelle écartement à voie métrique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un écartement qui s'élève à 1 mètre. On peut trouver ça en France. On en a encore des lignes à écartement métrique, notamment sur la ligne du Mont Blanc. On a quelques endroits encore, notamment sur les chemins touristiques, où on peut trouver de la voie métrique, par exemple juste à côté ici en Ardèche sur le Mastrou, hein, qui va faire Tournon jusqu'à la Mastre. Nous sommes en écartement métrique. Ça devient de plus en plus rare puisque les voies métriques en fait sont limitées. Alors déjà par le poids, on peut pas mettre du matériel très lourd. La vitesse est limitée aussi. Par contre, l'avantage, eh bien, ça permet des courbes beaucoup plus serrées. Par exemple, ces lignes à voie métrique sont utilisées très souvent sur des profils montagneux. Alors, en Suisse, par exemple, chez nos confrères suisses, nous avons beaucoup, beaucoup de lignes à voie métrique. Ensuite, on peut parler de gabarit à voie étroite. Et là, croyez-moi que c'est très, très étroit. Par exemple, dans les mines, dans les usines, on peut trouver des voies pouvant atteindre jusqu'à 40 cm de largeur entre les deux fils de rail. Et là, on arrive donc du coup à la limite un petit peu hein, entre le modélisme et les voies réelles, entre guillemets. Je vais commencer par la voie la plus petite qui est la TY. Donc la TY, c'est une voie au 1/900 qui n'a pas de fil de rail. Le train va être posé en fait sur une plateforme aimantée et va se déplacer de cette manière-là. Donc on est vraiment sur vraiment quelque chose de très 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 petit. Alors c'est très peu connu en Europe, en France, dans le monde même d'ailleurs. Cette petite échelle est principalement utilisée et pratiquée au Japon. Nous avons la voie T. La voie T, elle, c'est du 1/400. Et là, on est sur une largeur de voie 2,8 mm pour la voie normale. Enfin, pour la simulation de voie normale. C'est petit, c'est vraiment petit. C'est pareil, hein, c'est une échelle qui n'est pas trop pratiquée en Europe ni dans le monde, plutôt des échelles qui sont pratiquées au Japon. Ensuite, nous avons l'échelle ZZ. C'est du 1/400 et là, on a des voies qui n'excèdent pas 4,8 mm. C'est encore petit. Ensuite, nous avons l'échelle Z. Alors, cette échelle-là, elle est un peu plus pratiquée en Europe. Un petit peu en France, d'ailleurs, on a quelques associations qui représentent l'échelle du Z, et on est sur du 1/220, avec une largeur de voie à 6,5 mm. Et là, on commence à pouvoir simuler d'autres types de voies, et en l'occurrence le ZM, qui est donc la simulation de la voix métrique. Alors, j'ai pas relevé tous les écartements de voix parce que sinon on s'en sortirait plus. Mais voilà, c'est la première échelle où on peut déjà différencier deux types d'écartements par rapport au réel. Ensuite, on a l'échelle que je pratique moi, qui est l'échelle N. Donc on est sur du 1/160e avec une largeur de voix normale à 9 mm, donc c'est pas si grand, on est presque au centimètre. Là on peut déjà simuler 3 écartements, à savoir la voix métrique et la voix étroite, le NM et le NE. Ensuite nous avons l'échelle TT, on est sur du 1/120e qui commence un petit peu à percer, j'ai envie de dire, dans le domaine du monélisme en France. Et nous sommes sur du 12 mm pour de la voix normal. On peut avoir du TTM pour de la voix métrique, et d'ailleurs à ce titre-là, on rejoint l'échelle N puisque le TT en voix métrique a un écartement de 9 mm. On a aussi le TTE pour donc de la voix étroite. Ensuite, nous avons l'échelle HO qui est la plus connue, celle que probablement vous connaissez même si vous n'êtes pas particulièrement modélisme ferrovifile. C'est une échelle très connue, donc qui correspond au 1/87e avec un écartement pour simuler la voix normale à 16,5 mm. Nous avons aussi la possibilité de simuler de la voix métrique, HOM, et de la voix étroite, HOE, qui correspond à l'échelle N en voix normale à 9 mm, pardon. Vous voyez, c'est assez rigolo parce qu'on peut plus ou moins retomber sur ses pattes avec les différentes échelles. Alors ma question, et ça j'aimerais bien, si vous êtes modéliste et que vous écoutez ce podcast, j'aimerais bien que vous me donniez la réponse. Est-ce que du matériel pouvant rouler sur de la voix étroite peut rouler sur de la voix normale en voix N ? Ça serait rigolo de savoir ça, et si c'est le cas, bah, ce serait cool, parce que je pourrais peut-être investir dans du matériel HO en voix étroite. Ensuite, nous avons l'échelle 0. Alors là, on a plusieurs échelles, puisque ça va dépendre aussi du continent sur lequel on est, notamment les Américains qui ne font pas tout comme nous. Nous avons donc 1/43,5e, du 1/45e ou du 1/48e, avec des voix donc à écartement pour voix normale de 32 mm. Ensuite, nous avons l'échelle 1, qui est moins connu. Donc nous sommes au 1/32e avec un écartement de voix de simulation à voix normale à 45 mm. Donc là on est quand même sur des trains qui commencent à être assez grands, assez larges. Donc pour mettre dans un appartement, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ce sont les premiers trains qui peuvent rouler en extérieur. En 45 mm, ça fait déjà 4,5 cm. Hein, donc voilà, vous voyez que quand même ça fait déjà un bon gabarit. Voilà, ensuite, pour terminer, alors ça je ne l'ai pas marqué, mais et je peux vous en parler parce que je l'ai pratiqué un petit peu, nous avons, pour finir, donc les trains de jardin sur lesquels nous avons la possibilité de nous asseoir, notamment le 1/8e et le 1/12e, je crois, de mémoire. Ce sont les plus grands trains, j'ai envie de dire, en modélisme ferroviaire que nous pouvons avoir, mais ceux-ci ne peuvent rouler, enfin, ne peuvent... sont habilités à rouler plutôt en extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Après, si vous avez l'espace pour faire rouler du train de jardin dans votre salon, c'est que vous avez un grand salon. Voilà, j'ai fini un petit peu mon explication par rapport aux échelles. Alors, j'ai appris tout ça, hein. Je ne le savais pas et j'ai fait pas mal de recherches pour me documenter et puis essayer de vous donner le plus d'informations justes possible. Et j'ai trouvé un truc super intéressant pour encore plus vous donner un rapport de grandeur si vous souhaitez vous lancer dans le modélisme. Par exemple, une rame de TGV hein, qui fait dans la vraie vie à peu près 200 mètres. En 0, elle fera 4 mètres de long. En HO, elle fera 2 mètres. En N, elle fera 1,5 mètres. Et en Z, elle fera 90 cm. Pour un autorail qui lui va faire 30 mètres de long, il fera 60 cm en 0, 30 en HO, 15 en N et 7 en Z. Donc vous voyez que c'est à réfléchir, vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans le modélisme. Moi, au début, j'étais parti sur du HO, donc l'échelle de référence, parce que cette échelle-là est très fournie en matériel. On peut vraiment trouver beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matériel roulant récent, surtout. Et puis, malheureusement, on n'a pas non plus des immenses maisons, des immenses locaux pour y poser. Donc, moi, mon idée, c'était de faire un réseau assez grand. Je voulais pouvoir faire des manœuvres, je voulais pouvoir faire rouler des trains Voilà, que mon train, je le fasse rouler, puis qu'il revienne dans peut-être 2 minutes, que j'ai le temps d'en lancer 2 ou 3 autres entre-temps. Enfin, voilà, je voulais vraiment, à moyen terme, en tout cas, un grand réseau. Et en vue de l'espace que j'ai chez moi, l'échelle qui m'a semblé la plus adéquate pour moi, c'était le N, donc 1/160e. Et alors, en rapport taille-détail, j'ai envie de dire, je pense que le N est quand même bien. On a la possibilité de vraiment se rendre compte des détails sur ces machines-là. Moi, j'ai des machines, j'ai du matériel roulant. En fait, je redécouvre véritablement le ferroviaire par ce biais-là, parce que je prends le train souvent. Et j'ai une image à moi, qui n'est que la mienne d'ailleurs, du train dans lequel je suis. Et quand j'ai touché, par exemple, une voiture Corail dont j'ai fait l'acquisition, et bien tout de suite, en fait, je me rends compte de à quoi ça ressemble en vérité. Et peut-être que si je ne l'avais pas eu entre les mains, je me serais pas rendu compte véritablement de quoi ça ressemblait, en fait. Et encore plus pour tout ce qui est matériel roulant motorisé, comme les locomotives, comme les autorails, les automotrices. Faire la différence entre une BB20 2200 qui roule là par chez moi et une CC 72000, du coup c'est marrant parce que ça a vraiment pas la même forme en vérité. Et ce sont des machines qui sont grosses, donc on peut pas se rendre compte, même si on les touche, on peut pas se rendre compte de la forme qu'elles ont puisqu'elles sont trop grosses. Et pour moi, le modélisme, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir accès à une description plus détaillée de ce qu'on pourrait imaginer dans la vraie vie. Voilà. Avec ça, je pense que si vous avez envie de vous lancer dans le modélisme, vous allez pouvoir faire votre choix. Comme je le dis, le HO, c'est le plus répandu. Le N commence à vraiment se démocratiser. Le Z permet de faire des beaucoup plus grands réseaux que le N encore. Voilà, c'est à vous de savoir véritablement vers où vous comptez partir, vous orienter, sachant que vous pouvez toujours changer en cours de route, mais l'investissement du rail, l'investissement des machines, l'investissement du matériel roulant, des wagons, ça coûte un peu cher, en vérité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se décider dès le début, c'est quand même mieux, pour pas partir dans tous les sens, et puis vous retrouver... le bec dans l'eau avec beaucoup de matériel que vous ne pourriez pas faire tourner parce que vous avez passé la place, par exemple. C'est tout. Maintenant que je vous ai bien saoulé avec toute la théorie, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans mon salon. Je vais monter un petit ovale et je vais vous faire entendre ma CC72000 que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, ce sera suffisant pour cet épisode.
2-3 minutes plus tard.
Bien, je vous retrouve dans mon salon avec un petit réseau de 3 mètres devant moi avec une CC72000. Donc une CC72000, c'est une locomotive diesel. CC pour 3 essieux par bogie. Donc un bogie, techniquement, normalement, en grande majeure partie du temps, nous avons 2 essieux, donc 4 roues. Sur un corail, par exemple sur une voiture corail, nous avons 2 bogies, donc 8 roues. Sur une BB 22200, nous avons 2 bogies, 2 essieux, donc en tout 8 roues. Et sur une CC 72000, puisque de base c'est une machine qui fait du fret, qui permet de tirer des trains relativement lourds, alors pas que, mais quand même pas mal, c'est une CC72000, donc 3 essieux par bogie, 2 bogies, donc 6 x 2, 12 roues sur cette machine. Machine diesel à laquelle j'ai attelé 10 wagons de marchandises, 10 petites citernes. Ça fait partie des petites acquisitions que j'ai eues dernièrement. Donc cet ovale est constitué donc de 2 courbes, à ma gauche et à ma droite. Juste devant moi, ici, là, justement un peu sur ma gauche, il y a une aiguille qui là actuellement est en position déviée. Donc là le train est juste devant moi, la locomotive est juste devant moi, vraiment devant, avec les citernes sur ma droite. Et en parallèle, derrière le train,
Nous avons une petite voix que j'ai mis, comme ça, juste pour rigoler. Peut-être que je ferai une petite marche arrière dessus pour y mettre quelques wagons tout à l'heure. Et voilà. Donc pour l'heure, on va démarrer notre CC72000, qui est une locomotive sonore, digitale sonore, que je démarre à l'instant. Voilà, notre locomotive est démarrée. On fait un petit klaxon juste pour rigoler. Et on est parti. Je vérifie que mon aiguille est bien positionnée. Voilà, et là ça passe. C'est beau. Alors je vais couper le moteur, tiens, pour voir, pour que vous puissiez vous rendre compte du bruit que ça fait. Ah, il y a encore un bruit qui est là.
Alors, juste pour que vous puissiez vous en rendre compte, voici un petit son d'une CC72000 que j'ai trouvé, bien sûr, sur Internet. Bien évidemment, la qualité sonore n'est pas nécessairement au rendez-vous, mais au moins ça vous permettra peut-être de mettre un son véritable sur le bruit du moteur d'une CC72000. Je vous laisse découvrir ça. Donc un moteur vraiment, hein, on l'entend, hein, ce moteur très, il a, on sent qu'il y a de la puissance avec le sifflement, là, ce bruit de compresseur et de turbo. J'adore moi cette machine. Donc c'est une locomotive diesel électrique. Le principe d'une motorisation diesel électrique sur une locomotive ou d'ailleurs sur un autre modèle de véhicule, je pense notamment à certains bus. La traction la propulsion d'ailleurs est entraînée par un moteur électrique. Et ce moteur électrique est alimenté par un alternateur qui, ce dernier,
lui, est entraîné par un moteur thermique, donc alimenté par du diesel, du gasoil ou bien, selon certaines autres machines, eh bien, du gaz. Donc la CC72000 fait partie de ces machines diesel électrique, c'est la première de sa série. C'est une machine qui, selon le modèle, peut aller jusqu'à 160 km/h et elle était vraiment très répandue sur le réseau ferré français pour tracter notamment des trains de prestige, un peu de fret. Et la petite anecdote de l'affaire, c'est que cette machine, entre 1999 et 2004, eh bien, tractait des TGV. Voilà, sur la partie non électrifiée en Bretagne, eh bien, pour éviter justement la rupture de charge. Hein, ce qu'on appelle la rupture de charge, c'est le fait d'avoir une correspondance. Ça veut dire que les gens qui venaient de Paris pour aller au Sable d'Olonne, par exemple, eh bien, devaient changer à Rennes, par exemple, ou à Nantes, je ne sais plus. Alors, ils prenaient le TGV entre Paris-Montparnasse et Rennes ou Nantes, par exemple, avec une traction électrique. Et dans ces gares, ils devaient changer pour prendre un train tracté par une machine diesel, puisque plus loin, eh bien, ça n'était pas électrifié. Donc pour éviter justement la rupture de charge, pour éviter la correspondance pour les voyageurs, pour surtout leur garantir un très bon confort, et on va pas le dire, mais permettre aussi une tarification un petit peu plus élevée, eh bien, on a couplé une CC72000 en tête d'un TGV. Les gens gardaient leur siège, gardaient leur climatisation et leur chauffage, et puis bah, c'était parti, quoi. Voilà pour la petite histoire de la CC72000. Moi, je suis très heureux de l'avoir en miniature. J'espère que ce petit épisode plein d'informations vous permettra eh bien, de vous décider peut-être, de vous orienter vers une échelle. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations, des informations que je ne maîtrisais pas nécessairement. Donc, je suis allé me renseigner sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes. Je vous conseille une chaîne YouTube qui est super, ça s'appelle Aiguillage, et vous avez aussi la chaîne Aiguillage Modélisme, alimentée par Thierry Pupier, et il y a vraiment toute une mine d'informations exploitables pour vous si vous avez envie justement de vous lancer dans le modélisme ou tout simplement dans la passion du ferroviaire. Merci de m'avoir suivi dans cette petite épopée qu'est le modélisme ferroviaire. J'aurai encore pas mal d'informations à vous donner. J'aurai encore pas mal d'informations à vous donner dans les prochains épisodes. Surtout, eh bien, restez abonnés. Si ce n'est pas fait, faites-le. Et puis, partagez en masse les épisodes. Ça peut être que bénéfique pour moi et peut-être pour ceux qui recherchent ce type d'informations. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, vous avez toutes les informations pour me contacter. J'aime bien les messages vocaux. Comme ça, je vous réponds, je les diffuse et j'y réponds directement dans les épisodes, ça pourrait être sympa. Ça n'a pas encore été fait, malheureusement, mais bon, je désespère pas de pouvoir interagir avec vous, chers auditeurs. Et puis, surtout, n'hésitez pas et prenez le temps, ça vous prendra que quelques secondes, voire une petite minute, de mettre des mentions sur les différentes plateformes, des j'aime, des étoiles, des petits commentaires, ça fait super plaisir. Et voilà, ça permet aussi de référencer le podcast et les épisodes. Et faut savoir que dans le podcast, on n'est pas rémunéré et c'est pas ce qu'on cherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me faire connaître, de faire connaître mes activités, de faire connaître ce que je sais faire en son, en modélisme du coup. Et puis voilà, d'avoir de plus en plus d'audience, me faire une petite communauté sympathique. Et puis c'est tout ce qui m'intéresse en vérité. Voilà, allez, à la prochaine. C'était Manu dans Audio de bord.
Et si on gardait le contact ? WhatsApp 06 20 59 38 97. Instagram, Facebook, Twitter @dpkprod. Ou via le www.dpkprod.eu.